France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Dans notre série de cette semaine sur le thème de la propriété, voici un nouvel épisode, Proudhon versus Marx, la grande dispute. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir l'historienne Anne-Sophie Chambost, professeure des universités en poste à Sciences Po Lyon. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié plusieurs travaux sur Pierre-Joseph Proudhon. Je renvoie nos auditeurs vers notre site pour en prendre connaissance. Et j'accueille aussi le philosophe Frédéric Monferrand, maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pour votre part un spécialiste de la pensée de Karl Marx. En particulier, vous avez co-dirigé avec Juliette Farja, un dictionnaire Marx paru en 2020 aux éditions Ellipse.
Qu'est-ce que l'esclavage ? Si je réponds, c'est l'assassinat ! Vous êtes aussitôt d'accord ?
Ouais !
Alors pourquoi la question ? Qu'est-ce que la propriété ? Si je réponds, c'est le vol ! Dois-je sans cesse devoir m'expliquer ?
Non ! La propriété, mais laquelle ? La propriété privée ? Bourgeoise ?
Je parle de la propriété en général, qu'on donne comme un droit naturel, tel que la liberté, l'égalité, la sécurité.
Mais ce sont des abstractions, non ?
Ce sont des droits ! Des droits naturels ! La liberté, l'égalité, la sécurité de chacun n'affectent pas celle de tous. Au contraire, elles les renforcent ! Ce sont des droits naturels, sociaux ! La propriété, à l'inverse, empiète nécessairement sur la liberté, l'égalité, la sécurité des autres. C'est un droit naturel anti-social.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
C'était un extrait du film de Raoul Peck, Le jeune Marx, réalisé en 2017. Vous y entendez un discours de Proudhon à Paris, au jardin du Luxembourg, probablement autour de 1844, non loin de la rue Vanneau, où Karl Marx réside désormais avec son épouse Jenny. Je rappelle qu'il a dû quitter l'Allemagne en 1843 parce qu'il avait bien trop énervé la censure prussienne par ses articles dans la Gazette Rhénane. Déjà, on entend Marx un petit peu agacé, quoique admiratif, à l'égard de Proudhon. Cela se confirme quelques minutes après. On écoute une autre scène de ce film. Vas-y, fonce. Alors, on va reprendre, excusez-nous, une petite confusion technique. Voici un deuxième extrait du film de Raoul Peck réalisé en 2017. Non, il y a un petit problème. Bon, c'est pas grave. C'est un extrait où on entendait Proudhon qui évoquait la première livraison des Annales franco-allemandes éditée par Arnold Rougeux à Paris au printemps 1844, où Marx avait fait paraître deux articles majeurs. Cette scène semble donc bel et bien se situer au courant de l'année 1844. Proudhon a à peu près 36 ans, 10 ans de plus que Marx. Il impressionne quand même le jeune philosophe allemand, malgré les petites piques que Marx semble déjà lui envoyer, en tout cas dans la reconstruction qu'en fait Raoul Peck. Et comme d'autres auteurs français lus par Marx pendant son exil à Paris, Proudhon a de quoi encourager chez ce jeune penseur allemand formé par la philosophie de Hegel, une philosophie si respectueuse du droit et de l'État, a encouragé donc chez lui la tentation de rompre enfin pour de bon avec Hegel. Proudhon vient de faire paraître en 1840 « Qu'est-ce que la propriété ?» où se trouve sa fameuse formule « La propriété, c'est le vol ». Voici un extrait de cet ouvrage qui précise le propos de Proudhon. Le droit à la liberté et le droit à l'égalité, selon lui, imposent ensemble de refuser le droit à la propriété. On écoute donc un extrait lu par Aïda Ndiaye.
La liberté est un droit absolu parce qu'elle est à l'homme, comme l'impénétrabilité est à la matière, une condition sine qua non d'existence. L'égalité est un droit absolu parce que sans égalité, il n'y a pas de société. La sûreté est un droit absolu parce qu'aux yeux de tout homme, sa liberté et sa vie sont aussi précieuses que celles d'un autre. Ces trois droits sont absolus, c'est-à-dire non susceptibles d'augmentation ni de diminution, parce que dans la société, chaque associé reçoit autant qu'il donne, liberté pour liberté, égalité pour égalité, sûreté pour sûreté, corps pour corps, âme pour âme, à la vie et à la mort. Mais la propriété, d'après sa raison étymologique et les définitions de la jurisprudence, est un droit en dehors de la société. Car il est évident que si les biens de chacun étaient biens sociaux, les conditions seraient égales pour tous, et il impliquerait contradiction de dire « la propriété est le droit qu'a tout homme de disposer de la manière la plus absolue d'une propriété sociale ». Donc, si nous sommes associés pour la liberté, l'égalité, la sûreté, nous ne le sommes pas pour la propriété. Donc si la propriété est un droit naturel, ce droit naturel n'est point social, mais antisocial. Propriété et société sont choses qui répugnent invinciblement l'une à l'autre. Il est aussi impossible d'associer deux propriétaires que de faire joindre deux aimants par leur pôle semblable. Il faut ou que la société périsse, ou qu'elle tue la propriété.
C'était donc un extrait de « Qu'est-ce que la propriété ?» de Proudhon. Nous sommes en train de parler de la grande dispute entre Proudhon et Marx dans le cadre de notre série d'émissions sur la notion de propriété. Anne-Sophie Chambost, vous êtes spécialiste de Proudhon. Que veut dire exactement dans ce livre de 1840 de Proudhon la phrase qui dit ceci « La propriété n'est pas un droit social, mais antisocial ».
Alors, Proudhon, dans ce texte-là, traite de la propriété sous différents aspects, dont un aspect juridique. Alors, on a pu contester l'intérêt de la façon dont Proudhon aborde cette question en droit. Pour autant, dans le texte que vous avez lu, il y a un certain nombre d'évocations de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et du coup, une approche individualiste, en fait, de la propriété. Et ce qui heurte Proudhon, à ce stade-là, en tout cas, de son appréhension de la propriété, c'est son caractère ultra-individualiste. La propriété comme un droit de l'homme, et qui fait que celui-ci, c'est l'article 544 du Code civil qui l'énonce à cette époque et qu'il énonce encore aujourd'hui, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Et c'est cet absolu, en fait, de la propriété qui rend pour Proudhon celle-ci asociale, antisociale, en fait, contraire aux autres idées qu'on trouve dans la Déclaration des droits de l'homme et en particulier les idées de liberté et d'égalité.
Alors, très bien, ok, mais qu'est-ce qu'il propose de faire? Est-ce que ça a du sens pour lui de dire, par exemple, qu'il faudrait l'abolir par un acte politique? Comment ça marcherait?
Alors, à cette époque-là, en effet, quand il dit que la propriété, c'est le vol, il pointe en effet son incongruité, disons, par rapport à la société, et il suggère en effet qu'on peut faire sans propriété. Et faire sans propriété, en fait, c'est la remplacer par juste un état de possession. Les hommes vont juste posséder les choses, c'est-à-dire travailler les choses, puisqu'il faut mettre évidemment la réflexion de Proudhon sur la propriété en lien avec la question du travail. En fait, ce qui le choque à cette époque-là, c'est l'idée que la bourgeoisie, en fait, propriétaire des instruments de production, bénéficie du travail fait par d'autres qui, eux, ne jouissent pas des fruits de leur travail puisqu'ils n'ont pas la propriété des instruments de production. Donc, l'idée de Proudhon, en effet, à ce stade, c'est de penser qu'on peut supprimer la propriété.
Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure c'est très clair dans sa tête ce qu'on pourrait faire demain s'il y avait une révolution, mais est-ce que vous pensez que ça voulait dire pour lui à l'époque des possessions certes, mais bon, quand même un peu sécurisées pour ceux qui travaillent, mais sur lesquelles on pourrait avoir un avis de l'extérieur, on pourrait collectivement, malgré tout, obliger quelqu'un à gérer sa possession avec des avis collectifs? Comment ça se déciderait? Qui déciderait? Il y aurait des votes? Enfin, est-ce qu'on a un peu une idée de ce qu'il avait en tête là, en 1840?
En 1840, ça me paraît peu clair, cette idée, effectivement, de réflexion collective sur ce que devrait devenir la propriété. Je pense que ça, il y arrive un peu plus tard, en fait. Il y a une évolution de sa pensée. Là, il est encore dans une logique précisément assez individualiste et précisément comme la liberté, l'égalité ne sont pas, d'après lui, assurées par l'existence du dogme propriétaire, cette propriété bourgeoise qui est triomphante à cette époque-là, en 1840. Il n'est pas encore dans cette idée que c'est par le collectif qu'on pourrait apprécier la propriété sociale. Ça n'arrivera plus tard.
Alors, le jeune Marx à Paris est lui-même en plein bouillonnement, en train de forger sa manière de voir l'histoire. Il est en train de penser qu'il y a toujours une domination de classe, d'une classe sur les autres classes dans l'histoire, que ça se renverse progressivement. Une classe dominée devient, après une révolution, la nouvelle classe dominante. Il essaye d'imaginer que ce processus est une fin et qu'on atteigne une dernière classe qui abolirait le système même de la domination de classe. Il pense, lui aussi, on peut dire là qu'il y a un point commun Frédéric Monferrand, il pense l'appropriation, je cite même le manifeste qui sera publié en 1847 avec Engels, une appropriation de la société entière par une classe, toujours, à chaque époque. C'est ça qu'il pense.
Oui, mais alors ça dépend justement à quelle époque de la trajectoire de Marx on se situe. Le jeune Marx, celui qu'on entend dans l'extrait du film, qui est à Paris en 1844, a pas vraiment encore cette vision de l'histoire en termes de classe et de lutte de classe. Bon, elle commence à se mettre en place, et effectivement, notamment à travers le dialogue avec Proudhon. Donc vous aviez raison, on peut penser que Proudhon est un des acteurs qui lui permet d'élaborer quelque chose comme une philosophie ou une théorie sociale propre, un peu plus en distance avec l'hégélianisme et le jeune hégélianisme, dont il reste par ailleurs à Paris un représentant, hein, les annales franco-allemandes dont vous parlez et la revue des jeunes hégéliens à Paris. Mais déjà, à cette époque, il y a aussi un moment de critique à l'égard de Proudhon. Et je le dis, puisque quand Madame Chambaud, vous disiez justement que Proudhon pense quelque chose comme une alternative entre la propriété et la possession, ou la possession égale. Bon, et dans La Sainte Famille, qui est un texte de 1844, écrit avec Engels, Marx explique déjà qu'en fait, une société humaine digne de ce nom, une vie humaine digne d'être vécu, serait pas défini en termes de propriété, ni même de possession, pas en termes d'avoir, mais plutôt en termes d'être ou de faire, c'est-à-dire de ce que les individus seraient capables de mettre en œuvre comme capacité. Et c'est véritablement, disons, cet horizon, là, de ce qu'il appellera jusqu'à la fin de sa vie le plein développement de l'individualité, qui pour lui est empêché, quoi, par la propriété, notamment par la propriété privée des moyens de production.
Alors, certes, la notion d'appropriation, elle apparaît dans le manifeste en 1847, manifeste communiste, mais en 1844, il y a donc ces deux articles très importants à propos de la question juive, où il discute avec un autre jeune hégélien, Bruno Bauer, et puis critique la philosophie du droit de Hegel, où quand même là, il commence, Marx, à penser des classes qui se succèdent, mesquinement, dit-il. Les classes dominées, hélas, quand elles prennent le pouvoir, finissent par dominer à leur tour, hein, mesquinerie de classe, dit-il. On peut dire que quand même, son idée qu'il y a une histoire dialectique, de domination en émancipation, en nouvelle domination, etc., commence à se mettre en place.
Oui, si vous voulez. Après, il y a des débats infinis pour savoir à quel moment Marx devient Marx, etc. mais oui, je vous accorderai volontiers que déjà dans les textes des annales franco-allemandes, mais notamment dans l'introduction à la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, il y a déjà l'idée, en tout cas, qu'il y a un acteur social déterminé qui est en quelque sorte destiné à s'émanciper lui-même et, ce faisant, à s'émanciper toute l'humanité. Et cet acteur social, pour Marx, c'est le prolétariat. En revanche, du prolétariat, il n'est guère question dans le texte sur la question juive, qui là est un texte beaucoup plus hegelien, où en fait ce qui est critiqué dans sur la question juive, c'est moins l'exploitation ou la domination d'une classe par l'autre que l'atomisation sociale qui s'exprimerait notamment et que justifierait, que sanctionnerait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et à cet égard, il y a peut-être aussi une autre différence avec Proudhon, au sens où Marx opposerait pas le droit de propriété à la liberté, à l'égalité.
Oui.
Il penserait plutôt que la propriété, en quelque sorte, la vérité de la liberté et de l'égalité, telle qu'elle a été conçue
par les bourgeois
par la bourgeoisie, oui.
de 1789. Donc, il salue la révolution, évidemment, comme un progrès historique, mais les droits, et là, il y a quand même un point commun avec Proudhon, les droits, égalité, liberté, propriété, sont un peu formels en soi, et quand on regarde matériellement ce à quoi ils correspondent, ils servent essentiellement à la bourgeoisie. C'est ça le propos de ce texte célèbre de 1844
de Marx. Je ne sais pas s'il dirait qu'il servirait à la bourgeoisie. En tout cas, ce qu'il dirait, c'est que ce sont des droits qui, à la fois, présupposent l'inégalité réelle entre individus ou entre groupes sociaux, et qui en même temps contribuent à les reproduire en les invisibilisant.
Mmh.
Donc à cet égard, on peut voir qu'il y a déjà quelque chose, peut-être comme une théorie de l'idéologie, dans ce texte-là.
Oui.
Et puis évidemment une critique de la propriété et de la fonction que peut remplir le droit ou que peuvent remplir les idéaux moraux, juridiques, etc. dans la justification, notamment par invisibilisation des inégalités, des rapports de domination dont la propriété est l'objet.
Alors, on va continuer ce petit dialogue qui est encore vraiment possible, semble-t-il, entre Proudhon et Marx. En 1845, Marx va être chassé de France par Guizot. Il ira à Bruxelles. Il s'infiltrera un peu, dans la, même si c'est pas forcément avec des mauvaises intentions, avec Engels, dans la Ligue des Justes de Wilhelm Weitling. Et ils vont rédiger donc le Manifeste communiste qui feront la transformation de la Ligue des Justes en Ligue des communistes. À ce moment-là, Marx et Engels ont très envie que depuis la France, Proudhon les aide. Et on va donc écouter une lettre de Karl Marx à Proudhon. C'est Manon de la Selle qui joue le rôle aujourd'hui pour nous de Marx.
Mon cher Proudhon, conjointement avec deux de mes amis, Frédéric Engels et Philippe Gigot, tous deux à Bruxelles, j'ai organisé avec les communistes et socialistes allemands une correspondance suivie, qui devra s'occuper et de la discussion des questions scientifiques, et de la surveillance à exercer sur les écrits populaires, et de la propagande socialiste qu'on peut faire en Allemagne par ce moyen. Le but principal de notre correspondance sera pourtant celui de mettre les socialistes allemands en rapport avec les socialistes français et anglais, de tenir les étrangers au courant des mouvements socialistes qui seront opérés en Allemagne et d'informer les Allemands en Allemagne des progrès du socialisme en France et en Angleterre. De cette manière, les différences d'opinion pourront se faire jour. On arrivera à un échange d'idées et à une critique impartiale. C'est là un pas que le mouvement social aura fait dans son expression littéraire, afin de se débarrasser des limites de la nationalité. Et au moment de l'action, il est certainement d'un grand intérêt pour chacun d'être instruit de l'état des affaires à l'étranger, aussi bien que chez lui.
Et je vous propose d'écouter tout de suite la réponse de Pierre-Joseph Proudhon à Karl Marx, quelques jours plus tard, en mai 1846.
Mon cher monsieur Marx, je consens volontiers à devenir l'un des aboutissants de votre correspondance, dont le but et l'organisation me semblent devoir être très utiles. Je prendrai aussi la liberté de faire quelques réserves qui me sont suggérées par divers passages de votre lettre. Peut-être conservez-vous encore l'opinion qu'aucune réforme n'est actuellement possible sans un coup de main, sans ce qu'on appelait jadis une révolution, et qui n'est tout bonnement qu'une secousse. Cette opinion, que je conçois, que j'excuse, que je discuterai volontiers, l'ayant moi-même longtemps partagée, je vous avoue que mes dernières études m'en ont fait complètement revenir. Je crois que nous n'avons pas besoin de cela pour réussir, et qu'en conséquence, nous ne devons point poser l'action révolutionnaire comme moyen de réforme sociale, parce que ce prétendu moyen serait tout simplement un appel à la force, à l'arbitraire, bref, une contradiction. Je me pose ainsi le problème. Faire rentrer dans la société, par une combinaison économique, les richesses qui sont sorties de la société par une autre combinaison économique. En d'autres termes, tourner en économie politique la théorie de la propriété contre la propriété, de manière à engendrer ce que vous autres socialistes allemands appelez « communauté » et que je me bornerai pour le moment à appeler « liberté, égalité ».
Or, je crois savoir le moyen de résoudre, à court délai, ce problème. Je préfère donc faire brûler la propriété à petit feu, plutôt que de lui donner une nouvelle force, en faisant une Saint-Barthélemy des propriétaires.
Je vous rappelle que nous sommes en train de parler de Proudhon et de Marx, la grande dispute, on n'y est pas encore, mais ça couve. On sent bien dans cette correspondance de 1846 que c'est un peu tendu entre eux. Merci à Aïda Ndiaye et Manon de la Selle pour cette lecture d'un échange de lettres de 1846. Anne-Sophie Chambos, que se passe-t-il du côté de Proudhon? Il dit assez clairement qu'il ne croit plus dans la révolution pour changer le régime actuel de la propriété. Il dit que désormais, il pense pouvoir faire, je cite, « brûler la propriété à petit feu ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ça veut dire, si on contextualise les choses, que Proudhon n'a pas seulement écrit « Qu'est-ce que la propriété ?», il a écrit deux autres mémoires, une lettre à Blanqui et un avertissement au propriétaire, une lettre à Considérant, et cet avertissement au propriétaire l'a mené devant la cour d'assises du Doubs. Donc il y a eu des poursuites, l'ouvrage avait été saisi, et finalement il n'a pas été condamné, il a été acquitté. Pour autant, ça a quand même été une expérience, c'est-à-dire qu'il était persuadé de révolutionner complètement les choses. Il s'aperçoit que la bourgeoisie a quand même des capacités de riposte, donc il faut aussi être attentif à cela. Plus généralement, dans cette question de la révolution, elle est quand même assez intéressante, et je rebondis sur l'échange que vous aviez avec mon collègue, La révolution, à cette époque-là, dans l'idée de Proudhon, la révolution commençait en 89, qui s'est poursuivie en 1830, elle n'est qu'une révolution politique. Reste à faire la révolution sociale, économique.
Ce que dit Marx aussi, exactement.
Voilà, effectivement, c'est un point d'accord qu'ils ont. Et la question, c'est de savoir comment la faire démarrer. Et de fait, je pense que dans les années 40, au moment où on est en train de subir la tyrannie des riches, le gouvernement Louis-Philippard, du roi bourgeois, Proudhon peut avoir le sentiment, en effet, que le moment de la révolution n'est pas encore là.
Vous expliquez quand même beaucoup ce revirement intellectuel par les circonstances. Parce que oui. Marx n'ignore pas tout cela. Il pense quand même qu'il y a une logique de l'histoire. Il a des concepts pour penser le fait que les choses vont bouger. Proudhon renonce à une telle conceptualisation. Il pense qu'il faut prendre carrément une autre voie, celle de la réforme à petit feu.
Alors, je ne ferai pas de Proudhon non plus totalement un réformiste quand même. Mais alors, je pense qu'il y a évidemment une vraie différence entre Proudhon et Marx. Proudhon peut poser à la philosophie, mais il est essentiellement ce qu'on appelle au XIXe siècle un publiciste. C'est-à-dire qu'il répond aux problèmes de son temps. Et la propriété est un problème pour toute une partie de la population française. Donc c'est comme ça, en fait, qu'il aborde la question. Et je crois que la pensée de Proudhon doit être contextualisée. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'appréhende. Et donc, effectivement, Proudhon répondant aux questions de son temps et à l'urgence qui se pose pour les classes populaires, et jusqu'à la fin, il utilisera le terme au pluriel, oui. On parle des classes et pas de la classe ouvrière. Effectivement, et comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce qu'on améliore la situation des ouvriers, des prolétaires? Et en effet, l'idée à ce moment-là, c'est peut-être d'essayer de retourner la propriété contre elle-même.
Alors, on va voir ce que ça veut dire. Mais examinons quand même un point qui est tout à fait clair dans leur échange. C'est que Proudhon craint aussi un peu de dogmatisme du côté de Marx et d'Engels. Raoul Peck, qui a réalisé le film Le Jeune Marx en 2017, n'a pas raté ce point. On écoute cet extrait.
Qu'est-ce que vous me demandiez ? D'être le correspondant de la Ligue. Je vais être franc avec vous. J'ai trop de travail, trop de paresse en moi pour me lier par des obligations supplémentaires. Vous êtes plus jeune que moi.
Vous n'êtes pas obligé de nous reprendre tout de suite. On peut vous envoyer des documents, ce serait un honneur.
Non, c'est tout réfléchi. Par contre, je veux bien que nous continuions nos discussions par lettre ou autrement, mais pour Dieu, mon cher Marx, ne nous assassinons pas mutuellement. Ne proférons pas d'anathème. Ne faites pas comme Luther, qui, après avoir détruit le dogme catholique, a fondé une nouvelle religion tout aussi intolérante.
C'est votre dernier mot ?
Certainement pas, mon cher. Certainement pas. N'avons-nous pas toute l'histoire devant nous ?
Frédéric Monferrand, il a du nez quand même, Proudhon. Il sent bien que ça va mal se passer avec Marx s'il refuse comme ça d'être son correspondant à Paris, correspondant de la Ligue des Justes qui est en train de devenir la Ligue des Communistes. L'attaque est imminente.
Oui, mais alors bon, il ne faudrait pas interpréter cette attaque, cette critique, donc. Notamment le texte « Misère de la philosophie », donc qui est une réponse au livre de Proudhon « Philosophie de la misère », comme le résultat d'une vexation de la part de Marx. Il pense qu'il y a un enjeu politique et théorique réel, et il pense surtout que le refus de Proudhon de collaborer au réseau de correspondance, ou en tout cas de collaborer autant qu'il l'aurait voulu, est révélateur de son positionnement politique qui...
Et théorique.
Et théorique, oui, qui lui semble en fait de plus en plus... Je ne sais pas comment dire ça. Je ne veux pas dire réformiste, puisqu'on a ma collègue nous a bien expliqué que c'était pas le cas. Mais en tout cas, de plus en plus hostile à tel que l'interprète Marx au mouvement de masse, quoi. C'est-à-dire à l'action politique organisée. En fait, Marx est quelqu'un qui pense que il faut des organisations politiques prolétariennes, qu'il faut qu'elles se développent à un niveau international, qu'il faut que ces organisations posent la question du pouvoir. Ce que pas nécessairement dire le prendre pour l'exercer, puisqu'il y a différents modèles à cet égard chez Marx, on y reviendra sans doute. Mais en tout cas, il pense que le prolétariat doit faire de la politique et que les positions du type de celle de Proudhon sont à cet égard un obstacle au développement du mouvement ouvrier, quoi.
Et alors, sur le plan théorique, est-ce que finalement Marx n'est pas en train de dire chez Proudhon, il n'y a pas assez de véritable théorie de l'histoire. Il prend les catégories comme celle de propriété, comme des idées fixes, qui vivent leur vie, sur lesquelles on pourrait travailler directement, alors que pour Marx, les idées sont toujours les produits de rapports de production, eux-mêmes évolutifs.
Oui, c'est ça exactement. Oui, Marx. Marx a trois critiques principales au fond à l'égard de Proudhon. Une critique politique que je viens d'exposer très très rapidement, quoi. Enfin, voilà, Marx pense qu'il faut penser la politique du point de vue des luttes réelles que suscitent les rapports de propriété, qui sont pour lui des rapports d'exploitation. La deuxième critique, donc du coup, serait plus théorique. Elle porterait sur l'analyse de la propriété elle-même, que Marx ne pense pas comme un droit, qu'il pense pas comme une institution, mais qu'il pense comme un rapport antagonique entre groupes sociaux, comme un rapport social, c'est-à-dire comme un rapport d'appropriation du travail d'une classe par une autre. Et puis la troisième critique serait un peu plus une critique de méthode, vous la rappeliez, c'est-à-dire que ces rapports sociaux d'appropriation du travail d'une classe par une autre, ces rapports d'exploitation, on ne peut ni les comprendre, mais ni même les évaluer à l'aune d'idées qui seraient censées être générales, transhistoriques, etc., qui seraient une idée de justice en général, une idée de liberté en général, précisément parce que ces idées, pour Marx, n'ont pas d'autonomie. Elles sont elles-mêmes la forme sous laquelle s'expriment ces rapports. Et ça, c'est quelque chose d'assez, semble-t-il, central, même dans l'interprétation, dans l'analyse du capitalisme que fait Marx, dont la spécificité, mais sans doute qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu, et d'être... un mode de production, c'est-à-dire un rapport d'appropriation, d'exploitation du travail, qui présuppose la liberté et l'égalité des contractants et des employeurs et des employés, quoi. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire appel à des principes généraux d'égalité ou de liberté pour critiquer le capitalisme. En quelque sorte, ces principes sont déjà inscrits dans le fonctionnement même du capitalisme, quoi.
Anne-Sophie Chambos, en essayant d'enlever un peu le ton brutal, la polémique, est-ce que quand même, car Marx touche un point chez Proudhon, il dit dans La misère de la philosophie que ce n'est ni un bon historien, ni un bon économiste, que Proudhon sacralise en quelque sorte des catégories qu'il faudrait prendre dans l'histoire, comme celle de propriété. Et finalement, il accuse de philosophie spéculative, comme on disait à l'époque, c'est une expression de Feuerbach reprise par Marx, et de petits bourgeois qui n'a pas de vision plus large des enjeux historiques. Bon, c'est violent, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est quand même vrai là-dedans, par rapport au mode de pensée proudhonien ?
Alors, c'est violent, ça assume un peu sa responsabilité, puisqu'il admet en effet que le système des contradictions économiques, donc l'ouvrage de Proudhon dont il est question, est un ouvrage dans lequel Proudhon a été infesté de philosophie allemande et qu'il a mal compris ce qu'on lui a enseigné, ce que les jeunes Hegeliens en exil à Paris lui ont enseigné, puisqu'il n'a pas accès lui-même au texte, il ne lit pas l'allemand. Donc, de fait, il y a sans doute une responsabilité un peu partagée. C'est vrai que cet ouvrage, Proudhon va... admettra ensuite qu'il n'est pas sans beaucoup de limites.
Donc c'est vous évoquez là Misère de la philosophie de 1847 de Karl Marx.
Et surtout le Philosophie de la misère, en fait, l'ouvrage qui précède l'ouvrage de Proudhon en 1846, où il essaye effectivement de résoudre en fait tout un ensemble de contradictions qui seraient dans la société. Et effectivement, on a beaucoup pointé le fait qu'il y a une espèce de pluralisme chez Proudhon, mais que ce pluralisme est finalement très organisé, que toutes les contradictions vont se résoudre et que donc la contradiction de la propriété se résoudra en quelque sorte d'elle-même. Sur ce point, il évoluera considérablement et certainement effectivement sous l'aiguillon des critiques de Marx, même si il entend les critiques de Marx, mais finalement, Marx, à cette époque-là, n'est pas véritablement un enjeu, un interlocuteur pour Proudhon. Marx n'est pas connu à cette époque-là. À la limite, si Proudhon est connu en Allemagne, c'est grâce à Marx qui en a dit plutôt beaucoup de bien, avant d'en dire du mal. Et c'est vrai qu'il est assez intéressant d'observer que toute sa vie, Marx pointera les limites de Proudhon. La réciproque n'est pas complètement vraie. C'est-à-dire qu'une fois que Proudhon a dit de Marx qu'il est le ténia du socialisme à cause de Misère de la philosophie, il ne s'intéresse plus à ce qu'écrit Marx parce qu'il n'y a pas accès, en fait.
Oui, simplement. Alors, on va voir ce qui va se passer parce que ce qui couvre, bien sûr, c'est la révolution de 1848.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Proudhon versus Marx, la grande dispute, c'est le sujet de ce matin, épisode au sein de notre série sur la notion de propriété. Alors en 1848, Proudhon va se présenter aux élections législatives, il échouera une première fois, il sera élu la deuxième fois, député de la Seine, et il a proposé, comme il se doit, une profession de foi à ses électeurs, programme révolutionnaire aux électeurs de la Seine. Et là, c'est quand même une surprise. On a l'impression que la notion de propriété est désormais tout à fait sauvée. On écoute un extrait de cette profession de foi lu par Aïda Ndiaye.
Voilà donc tout mon système. Liberté de conscience, liberté de la presse, liberté du travail, liberté de l'enseignement, libre concurrence, libre disposition des fruits de son travail... Liberté à l'infini, liberté absolue, liberté partout et toujours. C'est le système de 1789 et 1793, le système de Quesnay, de Turgot, de Jean-Baptiste Say. Le laisser-faire, laisser-passer, dans l'acceptation la plus littérale et la plus large. Conséquemment, la propriété, en tant qu'elle découle légitimement de cette liberté, voilà mon principe. Pas d'autre solidarité entre les citoyens que celle des accidents résultant de la force majeure. Pour tout ce qui regarde les actes libres, les manifestations de la pensée réfléchie, insolidarité complète, absolue.
Apologie désormais par Proudhon du laisser-faire, laisser-passer dans l'acception la plus littérale et la plus large, écrit-il. Et il dit donc que, par conséquent, la propriété qui découle de ce principe, eh bien, voilà son principe. Il la défend. On n'en croit pas ses yeux, Anne-Sophie Chambost.
On n'en croit pas ses yeux. Il s'agit de se faire élire. Si vous pensez vous faire élire en critiquant la propriété, bon courage. Mais bon, de fait, Proudhon a beaucoup eu à répondre hein, de ses textes, en particulier à Michelet, dans un texte fameux qui s'appelle Le Peuple, sur le peuple, où Michelet pointe justement les critiques de Proudhon sur la propriété en disant globalement, si on devait supprimer la propriété, parce que la propriété, c'est le vol, il y aurait dans ce pays des millions de voleurs qui se défendraient. Mm. Bon, donc, il y a un principe de réalité qui s'impose. C'est qu'effectivement, si on veut faire avancer les choses, c'est sans doute pas par l'abolition de la propriété qu'il faut agir. Et donc, dans cette perspective-là, pour cette profession de foi, Proudhon, en effet, reconsidère la question de la propriété, avec les excès, évidemment, qui sont ceux d'une profession de foi qui n'engage que ceux qui les croient. Il est évident, ceci étant, hein, que Proudhon évolue, justement, sur la question de la propriété.
Donc aussi sur le fond, ce n'est pas que l'opportunisme.
Non, 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 absolument pas. Il y a quand même cette idée, effectivement, qu'il faut faire quelque chose de la propriété.
Mais alors quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire en la sacralisant à ce point ? Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Quelle est... Il est en train, il est vrai, de mettre au point une nouvelle réflexion, on va dire quand même réformiste, hein, sur la propriété. J'aimerais bien que vous nous l'expliquiez en détail. On a parlé de mutualisme. Il y a aussi quelque chose de l'ordre d'un système fédéral. Allez-y, vous avez un peu de temps. Dépliez-nous la pensée de Proudhon après la révolution de 1848, avec aussi d'ailleurs l'ambiguïté qu'il pourra avoir au tout début de l'Empire.
De l'Empire, hein.
Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte.
Oui, tout à fait. Sur le mutualisme et le fédéralisme, il y a effectivement une réflexion qui était déjà présente, hein, dès les premiers textes, mais qui ne va cesser de se développer, parce que précisément, la pensée de Proudhon évolue, en fait, il développe un angle jusqu'à ses conséquences les plus extrêmes pour en voir les limites, et après il prend le point inverse. Donc au début de son œuvre, il est dans une perspective individualiste, hyper individualiste. Il en voit les limites, et les limites quand il s'agit précisément de comprendre le fonctionnement de la société. Donc il bascule en fait d'une logique individualiste à une perspective qui serait exclusivement sociale. Mais que se passe-t-il pour l'individu quand il est absorbé par un tout ? Et finalement, ça n'est que dans un troisième temps, disons, de sa réflexion après la Révolution de 48, au début du Second Empire, qu'il parvient à une espèce d'équilibre des choses entre la société et l'individu. Bon. Et donc, dans cette perspective-là, il réfléchit à un certain nombre de thèmes qu'il a abordés dès le début de son œuvre, dont la question de la propriété, justement. Il est plutôt désormais dans cette idée qu'il faut, alors, non pas rendre commune la propriété, le communisme, la communauté, ce qu'il appelle la communauté, n'est pas une perspective pour lui. Oui. C'est un autre absolu que celui de l'individualisme radical du dogme propriétaire. Mais en revanche, il faut permettre un accès de tous à la propriété. Et dans cette perspective-là, je pense que l'expérience, pardon de contextualiser toujours, mais l'expérience qui fut la sienne au moment des échanges avec Marx à Lyon, et la question de la façon dont les canuts lyonnais travaillent et sont pour le coup propriétaires de leurs outils,
oui.
Mais non pas de la soie, mais en tout cas de leur outil. Le système des canuts, ce système qui repose aussi sur une forme d'association, est un système qui lui paraît de plus en plus intéressant et à développer.
Ça voudrait dire qu'il faudrait le faire pour chaque corporation, voilà. Ou pour chaque commune, ou pour chaque usine. Enfin, il faudrait qu'il y ait des petites associations où tout le monde posséderait l'outil de production. Entre parenthèses, j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est pas du commun, ça. Vous m'expliquerez. Et ensuite, on aurait des associations de toutes ces associations, et ça ferait une grande fédération des associations de travailleurs. C'est à peu près ça.
Il est un peu dans cette logique-là. Disons qu'il évolue vers cette logique-là. En fait, ce qu'il a en vue, c'est ce qu'il appelle finalement la République de l'atelier et de la commune. En fait, les deux leviers de sa réflexion fédéraliste, c'est l'atelier et la commune.
Et pourquoi c'est pas alors de la possession commune ? Pourquoi vous dites que c'est pas du commun ?
Alors, je ne dis pas que ce n'est pas du commun. Disons que les communs actuellement reposent finalement davantage sur l'idée d'activité que sur la question en soi des biens. Et Proudhon,
qui posséderait l'usine, en l'occurrence, ou
pour le coup,
les biens de production, ce serait
les ouvriers.
Qui décide ? On élit des représentants. Qui prend les décisions ? On vote à main levée.
Il y aura un système, effectivement, de désignation, quand même, de personnes qui vont décider pour l'ensemble du groupe, en fait.
Donc, c'est pas une autogestion, mais avec quand même de la représentation.
Des petits groupes qui permettent, en fait, à tout un chacun de se connaître et d'échanger en connaissance de cause, en fait.
Alors, Frédéric Monferrand, dans le système de Proudhon qui vient de nous être décrit, ça se passe à côté de l'État. Il y a même cette idée que si on fait tout ça, on fait des réformes, l'essentiel de la vie économique se passera à côté de l'État, qui ne servira plus à grand-chose.
L'État n'est qu'un ensemble de services publics.
Voilà. Et donc, évidemment, ça s'oppose à une chose qui est quand même très aiguë chez Marx, c'est que si pour lui, si on arrive à la dernière révolution, qu'il pense être celui que fera le prolétariat, il y aura un moment fort, politique, brutal, assumé comme tel, de dictature du prolétariat, ou avec une appropriation de tous les moyens de production, même si le but pour Marx, comme chez Proudhon, c'est qu'à la fin, on en finisse avec l'État. C'est un moment temporaire, dur, étatique apparemment, mais dont le but serait alors la fin de l'État ensuite. Hein. Pouvez-vous nous expliquer cela? Parce qu'évidemment, Proudhon, il n'y croit pas deux minutes.
Oui. effectivement, oui, vous avez résumé, disons, la stratégie révolutionnaire qui est exposée dans le manifeste du Parti communiste et qui est une stratégie dont on peut dire qu'elle est à la fois étapiste et étatiste. Elle est étapiste au sens où Marx pense qu'il y a différentes étapes dans un processus révolutionnaire. D'abord, il faut prendre le pouvoir d'État et ensuite, à partir de là, on pourra passer toute une série de mesures révolutionnaires censées permettre à plus ou moins long terme le dépérissement, comme devait le dire Engels plus tard, de l'État, effectivement la disparition de l'État dans une forme, d'auto-organisation sociale généralisée. Donc à ce titre-là, on pourrait dire, à ce titre-là, on pourrait dire que le modèle est pas, la fin est pas si différente
de celle que vise la même, presque la même.
Mais il diffère sur les moyens. Ce serait une manière de le dire, effectivement. Simplement, en fait, Marx lui-même complique, comme toujours, je ne veux pas dire qu'il se contredit lui-même, mais qu'il a, en fait, c'est un penseur qui a exploré plein de pistes différentes et qui se recoupent pas vraiment. C'est pour ça que la dogmatisation de sa pensée est quelque chose d'assez étrange quand on y réfléchit. Mais on trouve aussi chez Marx, et notamment quand il réfléchit à la Commune de Paris, un modèle qui est précisément plus étapiste, étatiste, puisque... c'est la phrase d'Engels dans sa préface au texte de Marx, que Marx a rédigé pour l'Association internationale des travailleurs sur la Commune, c'est « Regardez la Commune de Paris, c'était la dictature du prolétariat ». Donc là, on voit bien que la dictature du prolétariat, dans ce cas-là, ça veut plus dire exercice d'un pouvoir plus ou moins violent sur la classe dominante, ça veut dire auto-organisation de la production, de la vie sociale, d'une manière qui tende à rendre, à saper le pouvoir de l'État. Donc là, on a un modèle beaucoup plus en termes de double pouvoir, si vous voulez, commune contre État, commune éventuellement susceptible de se généraliser, qu'un modèle, par étape, où d'abord on prend le pouvoir d'État et ensuite on fait le communisme. Le communisme, c'est maintenant, quoi. C'est ça l'idée de Marx quand il voit la Commune, en fait.
Et en même temps, il y a quelque chose d'un peu étonnant, c'est qu'au début, quand on évoquait les années 1840, on avait l'impression d'un Proudhon un peu imprécis sur ce qu'il voulait vraiment, alors que Marx avait une théorie de l'histoire, enfin c'était assez précis. Et puis maintenant, lorsqu'on est plus tard, on a l'impression que Proudhon a une théorie très précise, alors elle marche ou elle marche pas, mais elle est très précise, sur le mutualisme, l'organisation mutualiste et fédérative des associations d'ouvriers, alors que le monde de demain, post-révolutionnaire, communiste, qui pourrait ressembler au monde de Proudhon, Marx ne le décrit pas vraiment.
Mmh. Oui, mais alors là, c'est des niveaux de discours différents, quoi. C'est-à-dire que quand il s'agit vraiment de penser des stratégies révolutionnaires pour le communiste, alors ça change beaucoup, c'est une affaire de conjoncture, c'est le domaine vraiment de la politique, et Marx est quelqu'un qui a non seulement pensé, mais qui a pratiqué la politique, quoi, qui est un militant révolutionnaire lui-même, donc forcément ça bouge. Après, en ce qui concerne les principes théoriques, Marx est quelqu'un qui est très hostile à l'idée de décrire ce que devrait être la société de l'avenir, pour des raisons qu'on a déjà évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, si vous pensez que ce qu'on est capable d'imaginer dépend de l'époque, du contexte historique dans lequel on évolue, alors vous devez aussi penser qu'on n'a pas la possibilité de transcender radicalement cette époque en pensée.
Il est cohérent avec sa dialectique, c'est-à-dire qu'on aura les idées de demain que quand demain sera arrivé au niveau de la production matérielle.
Voilà, c'est une idée hegelienne, mais bon. Mais il y a aussi c'est cette idée que l'individu est fils de son temps, quoi. Hein, et donc c'est difficile de transcender en pensée les barrières de l'époque actuelle. Et en même temps, on peut identifier dans le présent ce qui annonce déjà un peu l'avenir.
Et c'est, vous êtes d'accord
c'est ça qui est
le
plus intéressant pour Marx. Ouais.
Vous êtes d'accord tous les deux pour dire en tout cas qu'il n'y aura plus de propriété privée. Alors, je ne suis pas sûre de tout à fait comprendre ce qu'il y aura à la place, mais sur ce point, vous êtes d'accord?
Oui, il n'y aura plus de propriété privée, en tout cas des moyens de production. C'est quand même ça le facteur essentiel de domination dans nos sociétés. Quoi.
Et Anne-Sophie Chambon?
Il y aura une dilution en fait, de cette propriété. Je ne peux pas dire qu'il n'y aura pas de propriété privée
c'est
en réalité.
C'est là où je ne comprends pas bien. Excusez-moi.
Ici, parce que en fait, l'idée de Proudhon, c'est que après avoir cru à la possibilité de la possession, il est obligé d'admettre que la possession est quelque chose d'assez fragile. Et en fait, à la fin de sa vie, quand il s'agit d'opposer quelque chose à l'État, ce qui lui apparaît finalement le plus susceptible de s'opposer à la puissance de l'État, c'est la propriété, parce que c'est un absolu. Et donc il y a l'absolu de l'État, il y a l'absolu du pouvoir, et il y a l'absolu de la propriété. Donc finalement, contre mauvaise fortune, bon cœur, il prend la propriété en se disant, mais on ne peut pas la supprimer parce que finalement elle est bien utile contre l'État. Elle permet à l'individu de s'opposer à la puissance de l'État. Mais il faut que tout le monde y accepte. Pardon.
Il y a un autre espace d'exploitation qui est l'espace où traditionnellement, dans la société capitaliste, les femmes ont travaillé. Que c'est la maison, que c'est la communauté, que c'est le travail de reproduction de la vie. Il n'a pas compris que cette activité est fondamentale, non? Et le soutien de tout type de travail qu'il y a. Parce que ce qu'on produit dans la maison, c'est le producteur. Alors, il y a une production dans les usines, qui est production des marchandises. Il y a une production de travailleurs dans les maisons. Bon, Marx n'a pas vu tout ça. Il n'a pas vu aussi que le salaire et surtout la différence entre travail salarié et non salarié a permis au capitalisme d'occulter tout cet espace d'exploitation qui est le travail de reproduction. Il a permis au capitalisme de l'invisibiliser, de déléguer aux travailleurs salariés, aux maris, le contrôle sur le travail de sa femme.
C'était la penseuse Silvia Federici. Alors, Silvia Federici, donc là, qui s'exprimait en 2019, à l'instar de Colette Guillaumin ou encore de Christine Delphi, a noté, dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans les études marxistes et féministes, que chez Marx, puisque c'est lui qu'elle vise là, il y a eu une insuffisante prise en compte du servage que constituait le travail féminin, y compris le travail domestique. Alors c'est une critique qui est quand même un peu dure au sens où on ne peut pas oublier que dans le manifeste communiste de 1847, Marx dit au moins que, je cite, le bourgeois ne voit dans sa femme qu'un instrument de production. Il a quand même dit ça. Il a aussi dit que le bourgeois avait en plus, je cite, à sa disposition les femmes et les filles de leurs prolétaires. Mais c'est vrai que la question du travail domestique comme fabricant des petits prolétaires, les reproduisant, un travail non rémunéré, Marx n'a pas beaucoup pris cela en compte. On parlera de Proudhon et des femmes. Juste après, je voulais quand même introduire ce problème. Frédéric Monferrand.
Effectivement, on ne trouve pas une théorie de l'exploitation du travail domestique chez Marx. Marx considère que voilà, la classe ouvrière se reproduit d'elle-même et que le salaire permet plus ou moins à la famille ouvrière de se reproduire. Et même, il pense, la reproduction de la force de travail, le fait qu'elle puisse se pointer tous les jours au travail, sous la catégorie de consommation. En fait, lui, ce qu'il pense simplement que les prolétaires doivent pouvoir consommer des biens qui leur permettent de retourner travailler. Et ce que vont dire des féministes comme Federici, c'est dire que ces biens de consommation, il faut eux-mêmes les travailler, il faut eux-mêmes les préparer, et c'est ça le travail de reproduction. Marx effectivement n'a pas vu ça. Federici se distinguerait d'autres théoriciennes comme Guillaumin ou Delphi,
oui.
C'est que Delphi notamment va en conclure qu'on vit dans des sociétés où il y a à la fois un mode de production capitaliste et un mode de production patriarcale, dans lesquels la classe des hommes exploite la classe des femmes, alors que Federici reste quand même une marxiste au fond, oui. Et pense simplement que l'appropriation gratuite du travail des femmes dans l'espace domestique profite au mode de production capitaliste, que c'est une des conditions de reproduction du capitalisme.
Et si on garde un vocabulaire marxiste, il y a une théorie de la plus-value chez Marx, que sur le travail produit par l'employé, l'ouvrier, il y a une plus-value qui est ponctionnée par l'employeur. On peut dire que dans la plus-value, il y a un morceau de travail féminin caché, invisibilisé, comme on dit aujourd'hui.
C'est ça
qu'elle dit.
C'est ça l'idée. D'où la revendication dans les années 70 d'un salaire pour ou parfois on dit contre le travail domestique, avec l'idée que si les capitalistes devaient payer pour le travail gratuit des femmes, alors ils cesseraient de faire des profits.
Anne-Marie Chambosse, alors pour Proudhon, j'ai envie de dire c'est un peu plus simple. Les femmes, ils s'en fichent pas mal quand même. Je me trompe?
Alors non, ils s'en fichent pas. Je dirais pas ça comme ça. La misogynie de Proudhon est suffisamment connue pour qu'on ne puisse pas dire qu'il s'en fiche. Il a écrit sur les femmes, disons.
Quel talent vous avez.
Merci, à votre service. Donc non, évidemment, il ne s'en fiche pas. Il faut essayer peut-être de dépasser les citations extrêmement misogynes, et elles sont peut-être souvent pires dans les manuscrits non publiés. Essayons quand même de dépasser cela dans De la justice en particulier, qui est une espèce de grosse œuvre de Proudhon qui paraît en 1858. Il a quand même des considérations sur le couple et le mariage. Il y a toute une étude qui est consacrée au mariage et qui associe en réalité de façon nécessaire, indispensable, l'homme à la femme. Mmh. L'homme n'est rien sans la femme. L'autorité, la puissance public de l'homme s'équilibre effectivement par le rôle de la femme, le rôle domestique de la femme.
Domestique est assumé comme assez dominé.
Oui, oui.
C'est clair.
Je ne vais pas vous dire qu'il est pour l'émancipation de la femme. Hein, ça, on est bien d'accord. Même si
tout ça, c'est pas du tout son problème.
C'est pas complètement son problème. Même si évidemment, il sait que des femmes travaillent. Même s'il sait aussi que les femmes ont, en 1848, évidemment, certaines femmes aspirent à entrer, justement, sur la scène publique. La question du vote des femmes est une question à laquelle il n'est pas indifférent. Et il y reviendra, en particulier dans la théorie de la propriété et dans ses derniers textes. Il n'ouvre pas la porte, mais c'est quand même des questions auxquelles il réfléchit. Et donc, certes, la femme n'est pas grand-chose, mais l'homme n'est rien sans la femme. Si vraiment je devais résumé à très grands traits.
Mais je crois qu'on a bien entendu.
Question.
Merci de mettre des nuances aussi d'historienne, parce qu'il y a des contextes. C'est très important qu'on ait tout cela en tête. Écoutez, on va finir cette réflexion sur la grande dispute Proudhon-Marx par une chanson sur la dispute qui s'applique assez bien aux disputes, y compris intellectuelles et politiques. C'est Lou Doyon, Devil or Angel, une chanson de 2012 dans son album Places.
I'll never quite understand why we love to carry on wars as we do. And I haven't yet opened the doors that your bullets are already flying through. And I wish you'd stop claiming you surrender. Lay down the guns if you do. You accuse me of standing guard, but wouldn't you? Honey, you're so quick to skip from praise to slander. Devil or angel, I'm no one or the other. And I'm sorry if I disappoint you. So know where to stand when all your hell breaks loose. And I haven't yet said a word that retaliation troops are on their way. And I wish you'd stop claiming you
surrender. Lay down the guns if you do. You accuse me.
Merci Anne-Sophie Chambost et Frédéric Monferrand pour vos éclairages sur Proudhon et Marx. À présent, c'est l'heure de la chronique de Frédéric Worms. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi parlons-nous de saut qualitatif ? La notion de qualité a toujours paru à la fois fondamentale et secondaire dans la philosophie humaine. Et dans la philosophie moderne en particulier, elle est jugée secondaire depuis Descartes par rapport à une propriété fondamentale des choses qui est leur propriété mathématique, leur quantité par opposition à la qualité. Et l'opposition de la quantité et de la qualité est au cœur de la philosophie moderne dans son ensemble. Pourtant, il y a un petit phénomène qui vient déranger cet ordre mathématique du monde dans lesquels les mathématiques nous diraient la réalité des mouvements de l'univers et seulement nos sensations, leurs perceptions qualitatives, leurs couleurs, leur chaleur, leur rugosité, tout ce qui vient frapper la malheureuse subjectivité humaine. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle, notamment depuis Hegel et sa grande dialectique dans sa science de la logique en particulier, ce qu'on appelle un saut qualitatif. C'est la manière dont l'accroissement de quantité, même si l'on n'admet pas la notion de qualité, eh bien produit quelque chose comme un changement de qualité, un changement qualitatif. Au bout d'un moment, vous empilez, par exemple, des grains de sable et cela fait un tas. Au bout d'un moment, vous commencez à avoir un peu chaud et tout à coup, vous avez la fièvre. Au bout d'une certaine quantité de choses, la qualité de la chose change. La différence de degré semble devenir une différence de nature. Dans sa logique, Hegel, en fait, un des grands principe qui nous montre la dialectique dans le réel, la manière dont une chose passe dans son contraire, le concept de qualité qui semble être seulement un peu plus de la même chose, sans changer la nature de la chose, voilà que tout à coup, un peu plus de la même chose change la nature de la chose et nous passons, dit Hegel, magistralement de la quantité à la qualité. Marx l'a repris aussi dans sa dialectique de l'histoire et la notion même de saut qualitatif montre bien ici qu'il y a un renversement, une discontinuité, une rupture. Mais au fond, est-ce qu'il n'y avait pas là une illusion ? Beaucoup de philosophes ont pensé, au contraire, que la qualité était première et la quantité est seconde, à savoir qu'il y a toujours des différences absolues, qu'il n'y a jamais dans un sentiment et peut-être même dans la réalité de quelque chose. Un accroissement neutre ou une diminution d'ailleurs neutre, car cela va aussi dans le sens de la diminution et de la perte. Il y a des sauts qualitatifs dans la perte. Vous perdez un peu de poids et tout à coup vous avez maigri et on s'aperçoit qu'il y a des seuils, la notion du seuil. Mais des philosophes comme Bergson par exemple ont pensé que chaque petite différence est une différence absolue. Leibniz d'ailleurs pensait la même chose et le calcul mathématique vient alors en second. Pour permettre de comprendre les changements qualitatifs, il faut bien, en effet, des calculs quantitatifs. Il faut bien s'appuyer sur la science pour comprendre ce qui change. Ainsi, par exemple, dans la médecine, comme le dit Georges Canguilhem, pour justifier notre sentiment qualitatif d'être malade, il faut parfois des analyses de sang ou d'autres choses. Parfois, heureusement, elles nous montrent que notre sentiment qualitatif se trompait, que la quantité nous rassure sur la qualité, mais le rapport entre les deux reste au cœur de nos vies.
Merci Frédéric Worms. On peut retrouver votre chronique en podcast sur le site de Radio France dans les programmes de France Culture ou sur l'appli France Culture et de même pour toutes les émissions d'Avec Philosophie. Cette émission a été réalisée par Daphné Leblond avec à la technique Dali Yaha. Elle a été préparée avec Manon de la Selle en particulier et puis toute l'équipe d'Avec Philosophie, Jules Barbier, Carla Michel, Caroline Pernès, Lila Bozès et Aïda Ndiaye. Demain, nous poursuivrons notre série d'émissions sur la propriété. Nous nous demanderons à qui appartiennent les œuvres d'art. Mes invités seront Vincent Kaufmann et Leïli Anvar. D'ici là, prenez du bon temps sur France Culture. Vive la curiosité.